Salut les joueuses, salut les joueurs, et on est toujours à Des Bretzels et des Jeux édition 2018. On est samedi après-midi. J'ai pu me restaurer pendant que Père Castor accueillait Dominique de l'Escafa. Père Castor est toujours avec moi. Salut.
Salut.
Est-ce que Cyrus est revenu, Père Castor ?
Eh non, toujours notre président. La politique de la chaise vide, encore une fois. Est-ce qu'il va revenir cet après-midi ?
Qu'il va revenir déjà de base dans Proxy Jeux ? Est-ce qu'on va pas faire un putsch ? Je ne sais pas.
C'est ça. Et donc, bientôt l'AG d'ailleurs.
Et pour continuer donc ces sessions d'interview, encore quelqu'un qu'on a déjà reçu dans Proxy Jeux il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est Yann Parovel. Salut Yann.
Salut les gars.
Et alors, dans tes multiples casquettes, là, tu viens pour...
Là, j'en ai une ce soir.
Tu viens pour la NASA.
D'ailleurs, vous ne voyez pas, mais matériellement, il en a une. Et donc, tu viens pour parler de Ludonote.
Essentiellement de Ludonote, oui.
Alors, Ludonote, récemment, il s'est passé quoi ?
Ludonote,
il y a eu Nomade.
Récemment, il y a eu Nomade.
Puis Civ.
Civ qui a été un beau carton pour Cannes.
Yes.
Qui a très bien marché, qui marche encore très très bien. L'accueil des joueurs est toujours très très bon. D'ailleurs, c'est toujours étonnant d'avoir des joueurs qui le découvrent alors que ça fait
3 mois après.
Il est présenté là sur le stand.
Oui, bien sûr.
On est 3 mois après.
C'est ça. Mais en général, 3 mois, ça commence déjà à être un peu vieux pour les joueurs qui sont toujours à fond sur les nouveautés. C'est toujours un peu vieux. Et puis, on présente 2 nouveautés. Il y a Atlantis qui va sortir au courant de l'été.
Yes.
Qui est un jeu de dés. Exactement, Atlantis.
Sur l'Atlantide.
Sur l'Atlantide.
Oh là là, on est perspicace. C'est le professionnalisme.
Ça coule de source, ça, tu vois.
Ah ouais, complètement. C'est génial, le titre est bien trouvé. Ça coule de source. Ouais, non, elle est très bonne. Elle est excellente.
Alors, c'est Atlantis, jeu de dés.
C'est un jeu de dés par 2 auteurs pour qui c'est leur premier jeu. On est quand même habitué à faire les premiers jeux, hein, souvent des auteurs. On essuie un peu les plâtres parfois. Mais en l'occurrence, là, c'est un jeu de gestion de dés où t'as un joueur qui tire les dés. Ensuite, selon les dés, tu vas avoir des quartiers qu'il va falloir gérer pour récupérer les ressources avant que l'Atlantide coule.
D'accord. Quel format de
Quel
temps
format,
de jeu
format,
Non, je ne parle pas du format de la boîte.
Non. Niveau format, c'est 2-4 joueurs et puis c'est un petit peu joueur. Quoi.
Une heure, quoi.
Non, c'est beaucoup moins. 40 minutes max.
Ça va, c'est des petits joueurs.
C'est pas...
C'est dans la complexité des mécaniques que ça s'approche plutôt des joueurs un peu plus aguerris.
L'approche qu'on a avec les Ludonotes en ce moment qui est un peu... je dirais problématique, c'est que du coup les joueurs sont extrêmement habitués à certains types de mécaniques et du coup s'attendent à les retrouver dans la plupart des jeux et ils sont du coup
déçus quand ils les retrouvent pas.
Ben pas déçus, disons que
surpris.
Tu te rends compte, oui, ils sont gênés parce que d'un seul coup on les sort un peu de leur sentier battu. Et du coup ça leur donne des mécaniques qu'ils n'ont peut-être jamais vues ou qui ont une approche différente, voire qui sont parfois à l'envers et qui donnent tout le sel au jeu. Mmh. Et parfois ça les déroute. Mais souvent ils sortent de la partie en disant ouais c'était cool. Donc
alors dans la gestion de dés, à quel point, de quelle manière est-ce que justement ça va sortir des gestions de dés qu'on a quand même depuis, il y a Marco Polo qui a eu ça, etc. Bah,
dans le sens où par rapport à la gestion de ressources qui est fait par rapport aux dés, est-ce que tu avais joué à Discoveries par exemple?
Oui, qui est très bien.
Voilà, bah justement, c'est
je
un peu...
Je préfère aller où c'est Clark d'ailleurs, disons-le ici.
Pareil pour moi en fait, si je dois prendre parti, mais pour le coup c'est un peu cette idée que les dés sont pas là que pour choper des ressources, ils sont aussi là pour activer des zones, des pouvoirs, et puis cette espèce de gestion de majorité sur les dés où tu vas essayer de prendre, mais aussi de ne pas laisser aux autres. Enfin, il y a vraiment une approche qui est très particulière.
L'interaction qui est là aussi, du coup, dans la prise de dés que les autres ne pourront pas prendre.
Complètement.
Et les dés sont dans un pool commun.
C'est un pool commun et les joueurs choisissent un à un les dés qui les intéressent pour activer
c'est
les différents
quartiers.
Une forme
de draft de dés.
Exactement. C'est une forme de draft de dés.
Du coup, ça, donc, c'est Atlantis. Donc gestion de ressources, gestion de dés,
oui,
etc. Et derrière, il y a également Sentinels.
Sentinels, c'est un jeu d'Eric Jumel. C'est aussi son premier jeu. Et c'est un jeu de cartes sur lequel on va taper des monstres pour essayer de faire un maximum de points.
Alors,
on a 2 petites particularités là-dedans. La première, c'est que tu ne joues pas en coop, mais tu utilises les ressources des autres.
D'accord.
C'est-à-dire que les joueurs vont se retrouver avec des chargeurs pour leurs flingues, dans lesquels va y avoir des balles. Et ces balles, tu peux les prendre chez toi, mais comme elles sont liées à une couleur, tu vas pas forcément avoir les balles qu'il va falloir pour toi remplir ton flingue d'une certaine couleur chez toi. Donc, il va falloir que tu prennes chez les autres pour pouvoir remplir ton flingue pour tuer
D'accord.
les monstres. Donc, par exemple, si t'as un flingue rouge et que t'as pas de balles rouges, il va falloir que tu prennes des balles chez les autres.
Okay.
Donc, du coup, on a un système de plateau qui est assez particulier, qui permet de tout maintenir ensemble et de faire les calculs des cartouches. Bah, tu connais la maison maintenant.
Ouais, non, mais...
Et du coup, voilà, c'est assez particulier. Donc, du coup, tu dois recharger tes armes pour pouvoir tuer les monstres en prenant les balles chez les autres. Et ensuite, tu utilises ces armes chargées pour aller tuer les monstres au milieu.
Et quand tu prends chez les autres, il y a une contrepartie?
Il y a une petite contrepartie, oui. Et puis, il y a surtout une contrepartie si tu ne partages pas. C'est-à-dire que si on t'a pris tes balles et que tu ne recharges pas tes flingues, parce que tu ne joues qu'une carte. Donc, t'as le choix soit de la transformer en arme, soit de recharger chez toi. Mais si chez toi, tu n'offres pas de balles aux autres, tu perds des points.
Ok.
Donc, il faut pas être vide tout en offrant pas forcément les balles dont ils vont avoir besoin pour charger tes propres armes.
Faut leur filer les merdes que tu veux, pas quoi, en gros.
C'est mieux, mais ouais, le truc, c'est que.
Tu peux pas toujours.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et du coup, les joueurs jouent les sentinelles, les fameuses?
Les joueurs jouent les sentinelles. Alors, les fameuses, lesquelles?
Je sais pas, les sentinelles.
Ah, des sentinelles.
Si ça s'appelle sentinelles, j'imagine.
Des protecteurs de l'univers, quoi, d'accord, qu'il arrive.
Il y a une faille. Il y a un lien Marvel ou que sais-je, non?
C'est exactement un style Marvel. En fait, on a un illustrateur qui est Romain Gachet, d'accord, sur le projet, qui est un illustrateur de comics, qui a été fortement inspiré par Scott Campbell, Humberto Ramos, etc. Enfin, du gros dessinateur, qui du coup a complètement créé un univers tiré de... Tout le monde connaît les Marvel, tout le monde connaît à peu près DC, ouais, mais là, ça vient plutôt de ce qui est indépendant, type Aspen ou Topco, cette génération de comics qui fait un peu fin 2000.
D'accord.
Donc il y a une course, petite touche un peu...
Un peu rétro.
Un poil rétro, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement fin. Enfin,
ouais, ouais. D'accord. Et donc, donc tu disais thématiquement, pour aller... Est-ce que c'est des sentinelles d'une même équipe?
C'est une équipe de sentinelles.
C'est ça, mais à côté de ça, c'est un jeu compétitif quand même.
C'est un jeu compétitif, pas coop.
Et du coup, thématiquement, comment tu expliques que tu ailles chercher des balles chez les autres?
Ben justement, parce qu'ils sont dans leur chargeur et tu vas aller leur gauler les balles. Tu vas leur voler les balles, en fait. C'est pas, ouais, ils vont te le donner avec grand plaisir parce que de toute façon, ils savent. Mais comme du coup, ils font des points quand tu les prends. Il faut essayer parce qu'on a un plateau, comme je te dis, on a un espèce de plateau modulaire qui permet de bien justifier ça, qui est un espèce de double chargeur.
Ouais, c'est ça, ouais.
Qui du coup marche bien, ouais.
Ok, ça marche, ouais.
Et tu peux pas te réserver tes balles pour toi? Elles seront forcément mises à disposition des autres.
Elles sont mises à disposition des autres, mais du coup, quand tu recharges, tu gagnes aussi un bonus qui te permet de le dépenser, sans avoir besoin d'aller choper les armes des autres non plus. Il y a trois mécaniques qui interagissent avec le système de rechargement de balles et de tir qui te permettent de pas trop offrir si tu veux. Enfin, faut vraiment bien calculer son coût. Sachant que t'as un nombre de couleurs de flingues et de balles, ouais, qui correspondent, qui est équivalent au nombre de joueurs. À trois joueurs, t'as trois.
Et donc, le but, c'est de dégommer les monstres. Et le but du jeu, chaque joueur, son but est de buter le plus de monstres possible.
Faire un max de points possible.
C'est ça, ouais. Alors, via la destruction de monstres pour protéger l'univers.
Exactement.
Donc ça, c'est Sentinels. J'ai l'impression que dans les deux, là, tu dis, il y a quand même, bon, comme toujours chez Ludon, pas mal d'interactions, mine de rien.
On essaye d'en, ouais, mettre un maximum.
Parce que, si on prend Colt Express, il y avait beaucoup d'interactions pour le coup, très très interactif, quoi. Pareil, dans Discovery, il y a quand même de l'interaction, mine bien de sûr, rien, parce que comme tu l'as dit, quand tu prends les dés, de tête, je crois que tu pouvais aller en piquer chez les autres aussi. Enfin, il y avait pas mal d'interactions, et là, pareil, ça continue dans cette lignée-là où.
On essaye toujours d'avoir un maximum d'interactions, ce qui est pas toujours facile avec les mécaniques qui nous sont ramenées, parce que, fatalement, une mécanique de jeu peut marcher sans interaction normalement, pas toujours, mais c'est quand même souvent le cas. Et le but, c'est justement ce qui est très compliqué à faire, surtout sur les nouveaux jeux qu'on a, c'est que tu te rends bien compte qu'au niveau des interactions, comme il faut essayer d'innover et de trouver de nouveaux moyens de faire interagir les joueurs entre eux, on est obligé d'aller dans des extrêmes qui sont, ben, par exemple, Sentinelle, où on pousse un peu la limite dans le sens où ça va être un jeu de dilemme où tu vas à chaque fois proposer des choses pour les autres. Tu sais que tu vas le proposer pour les autres, mais il faut pas que ça se retourne contre toi non plus, quoi. Un peu comme on a dans Civ. Oui,
c'est un peu plus complexe que juste, je vais lui tirer dessus, quoi.
Ouais, non, mais clairement, ouais, plus complexe, oui. Faut le cerveau un peu formaté pour. Bon, on fait confiance aux joueurs pour ça.
Oui, donc tu disais un peu comme dans Civ.
Un peu comme dans Civ. Dans Civ, si tu ne bloques pas le bon adversaire au bon moment, ou si tu laisses un seul joueur s'occuper de bloquer le joueur meneur, fatalement derrière, les autres joueurs vont en profiter et du coup, tu ne vas pas avancer. Il y a un dilemme permanent dans Civilization où tu dois vraiment laisser les autres joueurs voir qu'il y a un blocage à faire, parce que s'ils ne le font pas, c'est eux qui perdront. Mais il faut pas que ça te plombe non plus.
C'est ça, ouais.
Ça coûte très cher de bloquer dans Civ.
C'est faire des trucs qui te servent à toi sans que ça serve trop aux autres.
Exactement, ouais, exactement. C'est un dilemme qui est toujours compliqué à gérer avec les joueurs parce que...
Qui mécaniquement, en termes de création, est aussi assez complexe parce qu'il faut...
Complètement.
Enfin, faut réussir à trouver le juste équilibre, quoi.
Complètement. Et puis qui est hyper compliqué à amener aux joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est difficile de comprendre ce type d'interaction, parce que
le plus possible, faut que je marque le plus possible, mais que je fasse un peu la différence avec ce que ça va faire marquer aux autres, quoi.
Mais carrément. Et puis c'est hyper complexe parce que du coup il faut se projeter, pouvoir. Il y a une espèce de part de bluff qui est pas induite dans le jeu directement, mais qui s'induit automatiquement autour des joueurs, dans le sens où est-ce que j'y vais, est-ce que t'y vas, est-ce qu'on attend, est-ce que je te dis.
Ah, du coup c'est de l'interaction induite.
Et est-ce que je vais pas dire, regarde, j'ai fait ça pour toi, pensant quand même à moi, etc. Ça peut aussi se transcrire par le langage autour de la table.
Oui, complètement. Mais il faut que les joueurs le voient aussi. Et ce qui est un peu frustrant parfois, c'est que les joueurs passent à côté, ne voient pas cette interaction. Et notamment dans Civ, la première partie, ils remarquent des trucs, mais la deuxième, en général, quand ils ont compris les trucs, ils font OK, prochaine fois, je me ferai pas avoir et j'irai pas bloquer.
D'accord. Donc là, c'est ce qui est présenté sur des jeux, donc Civ, Sentinels et Atlantis.
Ah, c'est ça, exactement.
Après, dans le futur, il y a quoi qui est.
Ah là là, cet été, les amis, on a quelque chose d'exceptionnel. On a un
c'est
truc génial.
Flip. Ah non,
c'est pas, ah, non, c'est pas le flip. Ce qui est autre chose, c'est très bien le flip. J'y suis pas encore allé, mais. Non, non. Un truc exceptionnel, c'est que pour Colt Express, comme on a toujours l'extension avec les Indiens qui n'est pas encore prête, mm-hmm. parce qu'on tient vraiment à ce qu'elle soit, on peut pas se foirer sur l'extension
c'est
Colt Express, on n'a pas le choix. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on a prévu, c'est des micro-extensions qui vont sortir cet été, qui sont des micro-extensions thématiques.
Tu payeras par micro-transaction.
Non. Ça
sera des goodies.
Il ne faut pas que ça arrive. Non, ça ne sera pas des goodies. Ça va être des petits paquets de cartes dans lesquels tu vas avoir un scénario. Et en fait, chaque scénario va permettre de faire jouer automatiquement un des joueurs de Colt Express. C'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir un pack scénario Belle et il va se passer quelque chose avec Belle où il va falloir la coincer, l'empêcher dans le train, etc., de faire certaines choses.
Elle jouera le. Ce sera comme un bot.
Ouais.
Au niveau de Twitter ou des réseaux sociaux, si tu commences à dire que tu vas coincer une femme dans un train, d'ailleurs même d'un point de vue philosophique global, tu risques de te faire tomber dessus.
Ça, écoute, je sais pas, tout dépend de quel train.
D'accord, donc ça c'est des petits scénarios pour même si Colt Express a cette capacité justement par sa mécanique à raconter des histoires et à se projeter cinématographiquement dans l'attaque du train, etc. et comment on se déplace dedans. Là, c'est encore rajouter une couche de narration supplémentaire.
Complètement. C'est-à-dire que du coup, les personnages vont vivre chaque micro-extension. C'est une espèce de micro-extension. C'est quelques cartes. C'est un personnage qui va se jouer automatiquement et qui va avoir des caractéristiques nouvelles et qui va permettre de vivre un petit peu le personnage tel qu'il est, tel qu'on a voulu l'écrire. Cheyenne, par exemple, l'Indienne, couleur verte, va jouer l'Indienne dans le train, tu vois. Et tu vas avoir Ghost, il va vraiment jouer Ghost. Chaque personnage va prendre une vraie personnalité, il va embêter les joueurs, évidemment. Et les joueurs vont devoir essayer de contrer un petit peu ça, quoi.
Et ça, au niveau des développements, c'est qui s'en occupait, à part tout lui donner.
Alors, de toute façon, au niveau développement de jeu, quoi qu'il arrive, c'est Cédric. Hein.
D'accord.
C'est majoritairement Cédric, quoi qu'il arrive, même si on a des testeurs, on a évidemment les auteurs de jeu, on a Christophe Rimbaud, etc., l'auteur original de Colt Express. Le développement de jeu, c'est Cédric. Moi, je m'occupe essentiellement de l'habillage, des graphismes.
Ouais, et l'idée, elle vient de Christophe ou plutôt
L'idée, c'est commun. C'était une vraie envie de faire quelque chose, déjà parce qu'on avait envie d'avoir une extension pour Colt Express, mais comme l'autre n'est toujours pas prête, du coup on avait besoin aussi de faire vivre un peu Colt Express, ce qui est logique. Et puis
ils vendent toujours la boîte de base.
Ouais, bien sûr. Ouais.
De manière croissante, parce qu'il y a.
Alors moi, c'est jamais croissant. Hein. Le jeu, il date de 2015.
Ouais, Takenoko se vendait plus en 2014 qu'en 2011, par exemple.
Ouais, pour des petites raisons de communication aussi. Hein.
Ouais, bien sûr, non mais
le bad buzz fait vendre aussi. Hein. Enfin, à partir du moment où on parle d'un jeu, le jeu se vend plus de toute façon. Non, mais Colt Express, ça va. Piano, ouais. Solo, tranquille. Mais pour l'instant, Ludonote vit très bien de Colt Express.
Ouais,
pas de souci.
Après, donc tu as ça qui va sortir cet été. Sentinel, c'est prévu pour.
Sentinel, c'est Essen.
Essen. Et Atlantis, c'est cet été aussi, t'as dit?
Atlantis, ça devrait être la fin de l'été là. On attend en fait d'avoir les dates de fabrication exactes pour
toujours
savoir quand
le
jeu va arriver. Pourquoi? Pour Atlantis?
Ouais, par exemple.
Atlantis, probablement non.
Parce que Colt, c'était chez Ludofact, si je dis pas de bêtises.
Colt, c'est Ludofact
qui a permis un approvisionnement très rapide pour le spin.
Sentinel, ça sera très probablement en Europe. Par contre, ouais. Atlantis, le problème, c'est qu'on a énormément de petits matériels de ressources. Sur l'Atlantide, tu dois aller ramener des trésors, donc tu vas avoir des épées, des joyaux, des machins et tout. Et il y a beaucoup de petits matériels en plastique et en bois, du coup, qui sont à l'intérieur de la boîte, et c'est très difficile à faire en Europe.
D'accord. Et j'espère que graphiquement, vu que c'est toi qui t'occupes de tout ça, tu t'es pas inspiré d'Atlantide dans Pierre Perdu de la version Disney.
Ah, il y avait une idée derrière, mais non, on s'est un peu éloigné de ça en reprenant des graphismes. Le pari était de faire un jeu qui, pour le coup, on avait Nomad et Au Capitaine Avant qui étaient très inspirés Disney, très famille. Là, l'idée, c'était d'essayer de revenir, de prendre un peu ça à contre-pied, de revenir un peu sur quelque chose d'un peu plus, pas sérieux, mais un peu plus historiquement...
un peu plus mythologique, enfin...
Ouais, un petit peu, un peu aventure à la Jules Verne, quoi.
D'accord, ouais. Parce que historiquement...
Ouais, non mais oui, c'est compliqué.
Ils ne vont pas ce tapis de l'Atlantide.
Elle existe, on l'a vu.
Ah ouais, bah écoute, hein, c'est parce que tu vis plus proche de la Bretagne que moi, sûrement. Mais, et sinon, alors parlons un peu du World Art rapidement. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'arrive, je vois des débats sur le World Art sur Twitter. Alors je me rappelle bien de World Art sur de World Art.
Est-ce que vraiment tu veux insister là-dessus?
Juste une définition. Qu'est-ce que c'est?
Très bien. Le World Art, c'est ok. Donc en fait, il faut que je sois historien maintenant de logiciel pour pouvoir expliquer le truc. Ça vient suite à une remarque de Cyrus qui avait trouvé que le titre de Civ ressemblait à du word art. Donc le word art, c'est un habillage de titres qui a été instauré par Windows dans Microsoft Office 95, qui permettait du coup d'avoir des titres colorés,
stylé.
Un peu
pour l'époque.
Non, c'était même
pour l'époque.
Même pour l'époque, c'était un poil moche. Mais tout le monde l'utilisait parce que c'était très facile
à
faire.
Mais à l'époque, on appelait ça de la PAO.
Ouais, complètement. Mais comme à l'époque c'était très compliqué, enfin pour la plupart des gens d'utiliser Photoshop et tout, l'avantage de WordArt c'est que tu prenais ton effet, tu le collais sur ton texte et ça marchait immédiatement. Et même les gens pouvaient trouver ça pas trop moche. Puis, écoute, c'est normal, c'est comme la première fois où tu fais de la pâte à modeler et tout, bah tu fais un cendrier dégueulasse, mais ça te plaît parce que t'as réussi à faire quelque chose. Donc les gens utilisaient ça et tout. Et Cyrus me faisait une remarque comme quoi le titre pour lui ressemblait à du WordArt alors que c'est à des milliards d'années-lumière de ça. Enfin, en plus je suis allé regarder de nouveau comme on faisait les titres en WordArt. Non mais ça a tellement rien à voir, c'est juste que voilà, il avait envie de sortir une petite pique
qui m'a fortement amusé. Les clash Twitter, hein, ça il faut les alimenter.
Écoute, moi ça m'amuse beaucoup les clash Twitter, dans le sens où moi déjà ça me fait rire, et puis en plus ce qui est marrant c'est que du coup les gens tout de suite réagissent derrière, il y a les pour, les contre, etc. Puis j'aime bien, c'est drôle.
Mais alors regarde, le comics en MS, je suis sûr qu'il est destiné à un grand futur et que ça va revenir. Comics, est-ce que le WordArt...
Alors, comics en MS, et j'ai un grand espoir pour Papyrus aussi, qui est une fonte qu'on a oubliée, qui est extrêmement dégueulasse, et je me suis mis au défi d'un jour réussir à intégrer cette fonte quelque part sans que ça se voit.
Mais alors du coup, je suis sûr que le WordArt, tu vois, il a un avenir quelque part. Est-ce qu'il faudrait pas être justement pionnier à ce niveau-là?
Le WordArt, faut le tuer. C'est comme, tu te souviens, la tâche parisienne qu'il y avait à côté dans...
Je sais plus qui a une sur Twitter, elle nous manque et tout le monde dit non.
Non, faut les tuer, ces trucs. C'est des mouvances fin 90, début 2000. Non, c'est mort. Graphiquement, au niveau du style, c'est mort. Par contre, s'il a pas repéré que le titre de Civ avait été extrêmement travaillé façon Bauhaus avec des motifs façon tapisserie 19, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Et pour revenir sur la gamme de Luma, quand ça a été lancé avec Captain, même avant que ce soit lancé, on a dit que c'était quelque chose d'audacieux, etc. Parce que
c'est
toujours super galère de lancer une gamme à la fois narrative avec en même temps des jeux indépendants qui faut qu'ils soient tous bons dans leur côté, etc. Ça, on en est où? Parce que en dehors même des qualités du jeu, au Captain, je sais pas au niveau des ventes ce que ça a fait.
Nomad, c'était bon au Captain, ouais. Nomade, non.
Nomade derrière, ouais, Nomad, non. Et du coup, est-ce que ça remet en cause derrière là, par exemple, Atlantis ou Sentinel, ça aurait pu
surtout être, que chaque jeu apportait une pierre à l'histoire au final.
Alors après, le problème de Luma, c'est que ça a été extrêmement usant parce que vous n'imaginez peut-être pas, mais...
Tu sais, même en termes de communication, même d'un point de vue de l'extérieur, on voit que ça a demandé du boulot à la fois dans la conception de l'univers. Tout à l'heure, on a reçu
Didier
de Sweet Games, qui parlait de Exodus, etc. C'est une masse de travail au niveau de la création d'univers, au niveau de la création de l'harmonisation, j'imagine, graphique de ton côté. Et puis même d'un point de vue communication, il y a eu plein de trucs. Même de l'extérieur, on voit qu'il y a du
alors,
boulot.
Alors, oui, déjà, vous voyez de l'extérieur, mais en plus, en interne, c'était extrêmement compliqué à gérer, sachant qu'en plus, c'était très, 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 très difficile au niveau de l'approche aussi avec les distributeurs. Parce que même si on a des joueurs qui ont compris, qui nous ont suivis et qui nous suivent et qui sont en demande, enfin, on a régulièrement des demandes là-dessus, on est quand même coincé dans le sens où les professionnels, distributeurs étrangers parfois, n'ont pas saisi l'idée, la portée de l'ensemble, et où c'est compliqué pour eux, parce que déjà on propose une boîte qui est dans un format atypique, ça a rien que déjà là ça commence, tu vois, le fait
et
que
ça peut la mettre.
Voilà, c'est ça. Le fait aussi que t'as des andouilles sur le net qui ont pas su ouvrir la boîte, qui l'ont ouverte verticalement avec tout le matériel qui tombe. Enfin, personne n'ouvre une boîte comme ça. Enfin, t'as envie parce qu'elle est verticalement, mais tu l'ouvres, tu la glisses, quoi. Enfin, tu vas pas ouvrir le truc, quoi.
Ah, je sais pas. Moi, instinctivement, si je la mets sur le truc, je vais avoir tendance à l'ouvrir effectivement verticalement.
Ouais, je sais pas. Mais
après, c'est comme ceux qui mettaient leur PS2 couché ou debout, quoi.
Ouais, il y a un peu de ça, mais il y a plein de difficultés là-dessus qui sont qui du coup recoupent énormément d'autres difficultés, parce que finalement en création de numéros, tout ça, c'est quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, sur lequel j'étais pas étranger. Anse et Cédric ont bien assimilé la chose et ont donné tout ce qu'ils pouvaient là-dedans. Et l'expérience est super chouette quand même, tu vois. Après, on se rend compte de toutes les remarques qu'on a. On a énormément de remarques positives, on a aussi des remarques négatives, mais bon, ça c'est normal. Mais en tout cas, ça a fait parler énormément dans le milieu.
Est-ce qu'il y a vraiment des remarques négatives sur l'idée de faire de la création d'univers au-delà de la qualité des jeux intrinsèques à chaque jeu?
Si tu mets en dehors de ça la qualité intrinsèque des jeux, sur l'univers, on n'a jamais eu la moindre remarque là-dessus. Personne nous a dit faut pas faire, faut machin et tout. Tout le monde nous a dit que c'était casse-gueule.
Et ça, c'était facile à vendre entre guillemets auprès des distributeurs.
Non, mais c'est là où ça pêche, en fait. C'est là où on a un vrai problème. C'est-à-dire que les jeux sont là, il y a une demande, il y a des ventes, mais après ça sort pas assez, quoi. Donc après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas non plus. Enfin, au bout d'un moment, ceux qui dirigent le marché, bah, c'est quand même les distributeurs derrière. Hein, ouais, donc tu peux rien faire. Et effectivement, on a une version de Nomad ou de Captain, je sais plus.
En boîte carrée.
Peut-être même les deux, en boîte carrée pour le Brésil notamment.
D'accord. Et ça pourrait pas être un axe justement de standardiser entre guillemets
Le... Bah, tu standardises, d'accord, mais il est où le produit d'exception? Enfin, j'ai envie de travailler sur des produits qui m'éclatent. Moi, j'ai pas envie de faire de la boîte standard. Si tu veux, je peux faire très bien le produit qui va plaire au distributeur et sur lequel il va prendre des stocks. Et au bout d'un moment, il va avoir tellement de stocks qu'il va devoir faire une promo de dingue pour être sûr d'écouler son stock. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais ça fait pas avancer le milieu. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas de faire ça.
Mais alors, du coup, tu préfères faire des trucs qui se cassent la gueule, qui rapportent moins?
Mais ça se casse pas la gueule, ça a fait ses chiffres, on est en positif quand même, hein, quoi qu'il arrive. Donc, ok, alors du coup, ça a coûté beaucoup d'énergie, ça je suis d'accord. Mais on n'est pas négatif, clairement.
Donc tu préfères effectivement faire des jeux qui se vendent, mais qui vont pas. Colt Express, ça a super bien marché, etc. Alors que, encore une fois, au niveau de la programmation cachée, etc., c'est pas forcément facile. Est-ce que il faut pas. On en discutait tout à l'heure, est-ce qu'il faut pas sacrifier certains produits, entre guillemets, faire des trucs qui se vendent, qui sont ok, Azul? Tout hasard, c'est ok.
Bien sûr.
Ça n'apporte rien au milieu en termes de, enfin, pour moi en tout cas. Mais ça se vend, ce qui permet à côté justement de faire des produits spécifiques, particuliers, audacieux, où on peut se permettre que ça se casse la gueule.
Je crois, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, je crois qu'il y a plusieurs façons de faire et d'envisager le milieu. Je ne veux pas céder à la facilité, jamais. Je veux repousser les frontières, je veux vraiment essayer de pousser les trucs. C'est dur, c'est hyper complexe, mais c'est comme ça que je trouve ce boulot intéressant. Sinon, je vais faire autre chose, tu vois, au bout d'un moment. Ça ne m'intéressera plus. Si c'est pour faire juste de la boîte et vendre, ça ne veut pas dire que je ne veux pas vendre, au contraire.
Oui, parce que j'imagine que le travail sur Luma, etc., était aussi possible parce que Colt Express derrière, donc forcément. Bah
évidemment. Voilà. Puis il y avait une vraie volonté. Enfin, je veux dire, il y a une émotion. Puis à un moment, quand ton projet est. T'emporte parce que tu sais que tu fais quelque chose que personne n'a fait et que c'est casse-gueule, tu le sais. Mais mince, tu bosses plus, tu fais de la passion, quoi. Ça devient ton truc. Enfin, Luma, ça a été 2 ans de travail H24. Enfin, je compte pas mes week-ends, j'ai pas pris de vacances depuis, hein. Enfin, quasiment pas. Donc, ça a été un travail. Mais purée, c'est bandant, quoi. Ça fait vraiment du bien. Alors après, oui, c'est clair. Je bosse pour d'autres éditeurs sur lesquels les produits sont plus standardisés et tout machin, mais ça, c'est pour manger. Ouais, ça ne m'intéresse pas.
Et du coup, l'avenir justement de Luma, ça passera par quoi? Par quand même d'autres jeux éventuellement plus long terme
ou... On est en attente, on attend de voir parce que pour le coup, on a des produits qui sont arrivés là, notamment Civ, sur lequel on s'attendait pas. On a
pareil, encore, qui a aussi une boîte particulière au niveau du format.
Ouais, mais ça c'était volontaire. Mais c'est à toute façon avec tous mes produits, chaque fois que je bosse sur un produit, il y aura quelque chose de différent, c'est sûr. Il y aura une différence. Je ne peux pas me contenter d'un produit standard. Le produit simple standardisé, c'est pas que je sais pas faire, c'est que je ne vois pas l'intérêt.
C'est une prise de risque d'un côté.
Toujours. Ah, oui. Toujours. Mais en même temps, c'est une prise de risque que tu peux pondérer. C'est-à-dire que tu sais jamais si ça va faire un méga carton, ça c'est sûr, mais tu peux aussi limiter cette prise de risque pour que ça soit pas un échec total. C'est-à-dire que t'as moyen de pondérer, tu peux faire du, alors je sais pas si ça va parler, mais tu peux faire du benchmark sur les produits. Il suffit d'être au courant des tendances, d'être complètement à fond sur les méthodes de fabrication. Les usines jouent aussi un rôle là-dessus. Parce que si jamais tu es au courant d'une nouvelle pratique qui est possible dans une usine parce qu'ils ont su un certain type de machine et que du coup ça peut rentrer dans tes tarifs, enfin, c'est hyper complexe, tu peux être hyper pointu. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment qui va permettre de faire avancer le milieu? Avec un produit qui pousse en avant, parce qu'aujourd'hui, si on ne pousse pas en avant, je crois que c'est très facile de s'endormir sur une standardisation globale.
Ouais, parce que si on repart de la taille de la boîte, c'est justement ce qu'avait dit Anne-Cécile dans une des interviews à Proxy Jeux. Je crois que c'était sur un salon à Essen ou à Cannes, qu'ils avaient été obligés de changer la boîte de Lewis et Clark.
Oui.
Parce que c'était le format rectangulaire.
Pour le format américain. Mais après, je pense que sur Lewis et Clark.
Et ça, c'était une demande
après,
forte des distributeurs.
Je crois que tu n'avais pas bossé dessus à l'époque.
Non, Lewis et Clark, si, de loin.
Ouais, parce que pour le coup, je pense qu'au niveau du format de boîte, etc., il y avait moins une volonté, alors que moi j'adore la boîte de la première édition parce qu'elle prend moins de place et que c'est un critère important, mais je crois pas qu'il y avait eu tellement
de formage à l'intérieur.
Il y avait pas tellement de réflexion sur on va faire une boîte spécifique, etc. Je peux me tromper, hein.
Il y avait pas vraiment de réflexion.
Donc, finalement, changer le format de boîte c'était moins entre guillemets se compromettre peut-être d'adapter son format de boîte au marché que quand tu te fais chier à réfléchir à un concept de boîte qui soit unique.
Mais après, justement, c'est là la différence, c'est que tu te fais plus chier à partir du moment où t'as un concept et que tu l'as vraiment bien travaillé, que tu as les stats, que tu as pas que les stats, mais que tu as les avis, tu as aussi les tendances avec toi, que tout simplement pour Luma, regarde, la taille des boîtes, elle est extrêmement simple, hein. On a pris 4 stats, extrêmement facile. On a pris les étagères les plus utilisées au monde.
Ikea?
Clairement. Enfin, 75% des gens ont ça chez eux. Et pour ranger des jeux, ça se monte quasiment à ce niveau-là. Tu prends la taille, tu le divises en nombre de jeux que tu voudrais faire. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a des formules simples aussi que tu peux reproduire. Et en l'occurrence, sur le Mans, on n'a jamais eu de problème sur le format au niveau de la taille, notamment. Et pareil pour Civ. Pour Civ, ça part dans l'autre sens. Tu adaptes aussi la boîte par rapport à la taille. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est quand on te vend une boîte où il n'y a rien dedans. Donc, du coup, tu essayes de dire comment tu peux faire pour que tout le monde s'y retrouve aussi. Tu vois, le but n'est jamais de faire que les gens, il faut surtout pas que les gens, quand ils ouvrent ta boîte, se sentent floués quelque part. Il faut qu'ils sentent que chaque centime qu'ils ont mis dedans a été dépensé intelligemment. Rien ne m'énerve plus que quand t'as une boîte, quand on te vend dans un jeu et que tu vois qu'il y a un bout du concept qui a pas été respecté, qui a pas été compris, qui a pas été analysé, juste par facilité. Comme quand t'as un jeu, t'as des jeux comme ça, bah, tu les as montés, et une fois que tu les as montés, bah, tu les refous dans la boîte et tu vois qu'il y a pas la place pour le faire, alors qu'il faut virer des trucs, des machins, s'arranger et tout. Pour moi, c'est un problème de conception. Alors après, c'est mon côté pointilleux, je suis un peu, peut-être trop là-dessus, mais pour le coup, j'aime quand un produit est cohérent du début à la fin.
Pas vous mettre avec Seb Pochon, hein.
Ah, mais alors justement, je ne connais pas Seb Pochon, mais je le connais uniquement de réputation, j'aimerais beaucoup le remplacer, je pense que ça peut donner un truc explosif.
Le remplacer?
Non, le rencontrer. J'étais remplacé? Je voulais dire rencontrer. Ouais. Non, Seb Pochon, je voudrais beaucoup le rencontrer. On se connaît de vue, mais j'aimerais beaucoup, oui, parce que j'ai compris.
Oui, c'est un certain maniaque aussi. Je te dis pas sur Time Stories quand ils ont reçu les thermos qui étaient pas tip top.
Ouais, j'étais là.
Là, t'es là pour lui donner. Sur quoi est-ce que tu aimerais maintenant travailler dans le jeu de société pour un peu justement changer la donne? Éviter justement de faire des jeux où finalement on met juste du matériel qui soit là juste pour faire beau, entre guillemets, ou bien qui soit juste là pour faire beau, mais que ce soit assumé comme tel.
Si tu regardes les jeux sur lesquels j'ai travaillé, en tout cas, de mon côté, c'est jamais juste pour faire beau. Hein. Ça a toujours plus ou moins un rattachement pratique.
Non, mais là, je reprends par exemple l'exemple d'Azul que j'ai donné tout à l'heure. Tu mets des tuiles, le jeu est le même. Finalement, l'expérience, alors que je suis sensible à l'expérience de jeu, quand ça peut être amélioré par du matériel, dans Azul, je l'ai pas senti.
Azul, ça suffit parce que la thématique reste un simulateur de
carnage. Oui, la thématique est
carnage, quoi. Enfin, tu vois, on s'en fout de la thématique, en fait. Et il est joli pour ce qu'il est. C'est un jeu abstrait.
Ouais, je trouve. Pas... Enfin, moi, personnellement, je trouve même pas joli en fin de partie, mais ça, c'est après mon.
Ouais, après, ce que je ne comprends pas, c'est cette espèce d'engouement qu'ont les gens en disant que c'est très joli. Moi, je trouve ça pratique, utile, et voire. Pas quelconque, parce que ça a quand même été travaillé un minimum, tu vois,
c'est
voilà, plutôt fonctionnel, et puis bon, ça marche, tu vois, mais au bout d'un moment tu te dis quand même, tu te poses la question, tu dis ah oui, les gens trouvent ça joli, et alors là tu réfléchis, tu te dis bon, alors attends, faut peut-être remettre en perspective les choses, et du coup tu réfléchis, tu te dis ok, et tu te dis pourquoi, et tu recoupes les tendances et machin, et pourquoi c'est joli, et tu demandes souvent aux gens pourquoi c'est joli, et les gens sont incapables de te répondre pourquoi ils trouvent ça joli. Mais parce qu'il y a aussi, après on peut rentrer, moi je peux en parler pendant des heures, mais tu as aussi cette espèce d'habitude à ce que les choses rangées paraissent jolies. Quelque chose, un tableau par exemple, où les choses vont être parfaitement ordonnées, vont être rangées. C'est l'effet Tetris.
Ouais, ou les films de Wes Anderson qui sont symétriques, par exemple.
Exactement. Enfin, de Wes Anderson, oui, avec sa symétrie de plan, voilà. Comme Kubrick, en fait. Hein. Ouais, mais oui, complètement. C'est des sujets où je peux parler pendant des heures parce que c'est ma passion et c'est ce que j'essaye de transmettre au sein du truc et ça me fait tellement plaisir quand des gens le voient. C'est.
Mais alors, donc oui. C'est mon gros quel coup. rêve, qu'est-ce que tu vas amener dans le monde ludique, dans les prochains jeux de société sur lesquels tu travailles?
Oh, j'aime toujours emmener un côté qualitatif. J'aimerais, je sais que ça va pas plaire à certains, mais j'aimerais arrêter d'éditer du carton. J'aimerais arrêter de vendre des palettes et des palettes de carton. Tu sais, quand on arrive à Essen le premier jour, il y a des palettes et des palettes de camions qui arrivent et j'ai cette espèce de holker qui est là qui se dit purée, mais c'est pas possible tout ce qui va être consommé et tout. Alors que techniquement, en tant que joueur, le jeu de société, c'est un truc que tu partages avec les gens autour de toi. Tu vas aller chez quelqu'un. Enfin, moi, j'ai plus besoin d'acheter un seul jeu. Bon, déjà parce que je reçois, mais la plupart des jeux auxquels je joue, j'y joue chez les autres parce qu'ils les ont. Et je me dis, mais est-ce que ça serait pas plus simple de vendre moins de jeux, mais d'une vraie meilleure qualité de construction? Au lieu de vendre du papier, du carton, mais vendons du bois, vendons du verre, faisons beaux objets, de vrais beaux objets qui peuvent vraiment durer dans le temps, avec de vraies belles mécaniques. Et du coup, juste une valeur un peu plus durable, tu vois, que cette espèce de cramage de
palette. Comme ça, si tu fais du verre, si le jeu te plaît pas, ben, tu le refonds.
Mais exactement, mais tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, enfin, Azul, tout le monde l'a, mais quand tout le monde l'aura, enfin, on en fait quoi, t'en fais quoi de ta boîte si tu vas chez quelqu'un, t'y joues, enfin, tu vois, tu peux aussi transporter une boîte au bout d'un moment. Après, c'est le plaisir de posséder. Je préfère actuellement, pareil encore, ça n'engage que moi, je préfère avoir 3-4 très beaux jeux qui m'ont coûté cher plutôt que 50 jeux dont je me fous éperdument.
Pourquoi est-ce que tu vas te lancer sur Kickstarter?
Écoute, c'est une question.
En fait, faire des trucs de luxe où les gens sont prêts à dépenser 500 euros en se disant, même s'ils ouvrent pas leur boîte, mais.
Je pense qu'il y a une idée du Kickstarter qui est un peu de luxe, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas non plus toujours le cas. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres types de marchés qui sont atteignables et sur lesquels on est prêt. Je t'avoue que j'ai des nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour moi pour la rentrée. Donc, je reviendrai en parler si ça vous fait envie. Mais j'ai une idée très précise de ce que je voudrais amener au monde du jeu. Après, reste à voir si les gens ont envie de ça aussi, quoi.
Quelque chose à rajouter à part ta question traditionnelle, sinon, hein?
Est-ce que t'as déjà mangé une bretzel aujourd'hui?
Mais j'habitais à 100 mètres d'ici.
Ah oui, donc, qu'est-ce que ça te fait de revenir ici?
Bah, je reviens tous les ans. Donc, moi, je joue à domicile, hein. J'ai ma famille qui habite là. Donc,
ah ouais. Ah bah du coup pas d'hôtel, pas besoin d'hôtel.
Ah bah si, un hôtel quand même.
Quand même un hôtel. Oui, un hôtel. Oui, parce que la famille on l'aime bien, mais c'est ça, on ira avec.
Tu vas pas les ennuyer. Ouais.
Donc t'as pris une bretzel aujourd'hui?
Non, pas encore.
Pas encore.
Pas encore. Mais alors le problème de la bretzel, c'est qu'il faut qu'elle soit bien fraîche. Ouais, parce que si c'est pour se bouffer une bretzel,
tu connais
comme
la légende de la bretzel.
Bah, elles sont excellentes.
C'est qui nous avait parlé de la légende de la bretzel l'an dernier? C'était David et Kevin, je crois. Tu la connais, oui?
C'est quoi?
C'est le truc, le soleil passera trois fois et du coup ça va être. Enfin, je sais plus, tu demanderas.
C'est
quoi? Tu Kevin ex-Yellow aujourd'hui.
Un jeune prince voulait épouser une princesse et le roi ou le duc. Germanique ou alsacien lui aurait dit que bah tu pourras épouser ma fille si tu arrives à mettre le soleil trois fois dans une pâtisserie, un truc comme ça.
Ça me dit un peu quelque chose.
Romantique, hein. La bretzel.
C'est assez romantique, la bretzel.
On n'a pas vérifié les sources, hein. Peut-être qu'il nous a raconté des conneries.
Peut-être,
hein.
C'est possible. Non,
c'est fait avoir.
Il me semble avoir déjà entendu une histoire dans le genre, mais
écoute, on fera un jeu en bretzel. Pour sortir du carton, un jeu en bretzel.
Est-ce qu'elle a même sur la choucroute,
hein? Je pense que là, c'est pas en trois fois. Et je sais pas si le soleil traverse la choucroute.
Le soleil ne traverse jamais la choucroute.
Si tu mets le soleil entre trois morceaux de charcute, c'est la choucroute.
Merci en tout cas.
Merci à vous,
festival. Et puis à une prochaine.
Apparemment.
Ciao.
Salut.